Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis tout seul dans ce studio, donc je n'ai pas le masque. Ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu. Médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. D'où qu'elles viennent, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr. Il y a également la vidéo sur Europe1.fr. Notre infomédia, ce sera autour du 16e et dernier numéro du trimestriel America. Nous serons avec son rédacteur en chef Julien Bisson. Ils ont choisi eux-mêmes de s'arrêter en même temps que Donald Trump. Et puis nos invités, Stéphane Plaza pour la 100e de recherche appartement ou maison. C'est sur M6, c'est ce soir. Avec un numéro spécial, des appartements spéciaux et même des demandes spéciales. Enfin, la diva des banlieues, surnom de la cantatrice Malika Belharibi, née dans un bidonville de Nanterre et qui est allée chanter Carmen, salle Playel. TF1 a mis en scène sa vie exceptionnelle dans la fiction Les Sandales Blanches, incarnée par Amel Bent. Mais c'est la vraie diva des banlieues qui sera avec nous, donc avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Exceptionnellement en télétravail, place à votre journal des médias. Le sommaire du jour, Charles.
La LFP accélère, négociations bloquées à l'équipe et une exclusion inattendue pour Donald Trump.
Mais évidemment, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Ben c'est France 3 qui s'est imposé avec le deuxième téléfilm Prière d'enquêter avec Sabrina Ouazani. Il fait mieux que le premier avec 5 100 000 téléspectateurs au compteur et 21,4% de part d'audience. TF1 est deuxième en légère baisse avec sa série SWAT, 3 900 000 téléspectateurs, soit 16,8% du public. Mais SWAT est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 24% de part d'audience.
La cible.
Oui, absolument. Le deuxième numéro de Morning Night est troisième sur M6. L'émission de Michael Youn fait beaucoup moins bien que la première. 2 millions de téléspectateurs seulement, soit 9,7% du public, mais quand même 21% sur les femmes de moins de 50 ans.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec la Ligue de football professionnel. Elle a lancé hier une consultation de marché pour remettre en vente les droits qu'elle a récupérés auprès de Mediapro.
La procédure durera 10 jours à peine. La Ligue a décidé de diviser en silos les droits qu'elle a récupérés. 4 pour la Ligue 1 et 2 pour la Ligue 2. En revanche, la consultation de marché n'inclut pas les matchs diffusés sur Canal+ depuis la rentrée. Des matchs acquis à l'origine par beIN Sport et que Canal avait ensuite racheté. Le groupe souhaitait les rendre à la Ligue pour que l'intégralité du championnat soit remise en vente. Mais la Ligue n'y semble pas favorable.
On suivra évidemment ce feuilleton. La grève, on reste dans le sport, se poursuit au journal L'Équipe, le quotidien sportif.
Oui. Pour la 12e journée consécutive, le quotidien n'est pas paru et ce, malgré les nouvelles propositions de la direction. Un maintien du plan social avec des meilleures conditions de départ ou un plan de rupture conventionnelle collective accompagné d'un plan de compétitivité. La direction appelle les salariés à se positionner sur l'une de ces deux options. Deux options qui ne convainquent pas les syndicats, comme l'a expliqué le délégué SNJ Francis Magua à Louise Bernard.
La direction n'a pas compris, je dirais, l'état des troupes. Il y a eu 11 jours de grève. Et la réponse qui a été faite par la direction est très très en deçà de l'attente des salariés. Donc pourquoi reconduire la grève ? Parce qu'en face, il n'y a pas de solution. Depuis 2 mois et demi maintenant, elle n'a de cesse que d'essayer d'avoir un rapport de force avec les représentants du personnel. Et là, actuellement, ce rapport de force, il est encore là. C'est-à-dire qu'après 11 jours de grève, il n'arrivait pas encore à écouter.
Les salariés disent avoir mis en place une caisse de grève. Hier, ils ont reçu le soutien de leurs collègues de la chaîne, L'Équipe. Mais des téléspectateurs de plus en plus nombreux n'ont pas manqué de souligner qu'à l'antenne de la chaîne, il n'était fait aucune mention du conflit qui secoue le journal.
Sport toujours, avec le retour de l'opération Sport féminin toujours, justement.
Oui, elle dure une semaine cette année contre 2 jours l'an dernier. L'objectif est de convaincre les chaînes d'offrir plus de visibilité au sport féminin. Pour y parvenir, il y a plusieurs actions à mener, selon la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu.
Travailler à convaincre les diffuseurs à proposer un espace de visibilité pour ces grands événements sportifs, pour montrer des femmes en action, qui correspondent pas toujours à des stéréotypes qu'on a dans la tête quand on voit une femme à l'écran, mais plutôt voilà, une femme en action qui transpire, qui est performante, qui est musclée, dans toute sa diversité. Engager les diffuseurs à plus montrer, c'est aussi permettre aux sponsors et aux partenaires de rester investis dans le soutien de ces sportives et de ces sports en particulier. Et c'est aussi bien sûr donner une image des femmes pour que des jeunes sportifs, qu'ils soient garçons ou filles, puissent être inspirés aussi par ces images de femmes en action.
Des images qui fédèrent un public de plus en plus large. La mobilisation pour donner plus de visibilité au sport féminin paye parce qu'elle est également bénéfique pour les médias. C'est ce qu'a expliqué la créatrice de l'opération et membre du CSA, Nathalie Sonac.
Le but du jeu n'est pas de mettre du quota ou de l'obligation. Le but du jeu, c'est qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que finalement, et c'est ce qui se passe, d'ailleurs, dès qu'il y a une retransmission sportive féminine sur les écrans, les téléspectateurs sont au rendez-vous. Il y a une vraie demande, une vraie appétence des Français pour le sport. Et donc, les éditeurs se rendent compte que lorsqu'ils diffusent, retransmettent des matchs féminins, ça draine de larges audiences. Et pour eux, c'est évidemment un programme qui marche, donc ils ont intérêt à miser encore.
Nathalie Sonac et Roxana Maracineanu interrogées par Louise Bernard. Et ce cercle vertueux a aidé à faire augmenter la part des rencontres féminines dans les diffusions sportives. Elle est passée de 7% au début des années 2010 à 18% en 2018.
Et alors sortez vos agendas, TF1 et M6 ont annoncé le retour de deux de leurs émissions phares.
Les nouvelles saisons de The Voice et Top Chef seront bientôt à l'antenne. La 10e édition du concours de chant, marquée par l'arrivée de Vianney en coach, sera lancée sur TF1 le samedi 6 février. En avant-première, on vous propose d'écouter l'un des talents de cette saison.
C'est une avant-première, mais on n'a pas le droit de dire son nom, vous le découvrirez dans The Voice.
Voilà, de son côté, M6 proposera la 12e saison de son concours culinaire à partir du mercredi 10 février. Hélène Darroz, Paul Perret, Philippe Etchebest et Michel Sarran sont tous de retour dans le jury.
Là, on a le droit et on doit dire son nom. Nouvel hommage à Jean-Pierre Bacri ce soir.
Bah évidemment, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire.
Et oui, l'hommage, ce sera sur TMC. La chaîne rediffusera un épisode de son jeu Burger Quiz, auquel le comédien et scénariste avait participé. Elle a donc déprogrammé le documentaire qui était prévu initialement ce soir. TMC ne sera pas la seule à lui rendre hommage. France 2 proposera ce soir Le goût des autres et On connaît la chanson, deux films coécrits par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui.
Une exclusion inattendue pour Donald Trump.
Le futur ex-président des États-Unis pourrait prochainement être viré d'un puissant syndicat américain, le SAG-AFTRA. Alors vous ne le saviez sans doute pas, mais Donald Trump est membre depuis 1989 de cette organisation qui représente 160 000 acteurs et personnalités du monde des médias. Ça lui assure notamment une retraite de 80 000 euros par an pour ses participations à des films et des séries télé. Mais Donald Trump est accusé d'avoir trahi les valeurs du syndicat. On lui reproche d'avoir non seulement incité les manifestants à la violence lors de l'assaut lancé sur le Capitole il y a 10 jours, mais aussi d'avoir discrédité et mis en danger les journalistes tout au long de son mandat. Inacceptable pour le syndicat dont la mission première est justement d'assurer leur sécurité et leur bien-être.
Et on termine ce journal avec Netflix. Netflix qui continue de bénéficier de la situation sanitaire.
Le géant du streaming a annoncé hier avoir passé la barre des 200 millions d'abonnés dans le monde. Sa croissance continue de dépasser les prévisions des spécialistes. La plateforme a engrangé 8,5 millions de nouveaux abonnés sur le dernier trimestre 2020 et près de 37 millions au total en 2020. Au passage, Netflix s'est félicité de la popularité de Lupin, la série portée par Omar Sy, mise en ligne il y a 10 jours. Selon ses projections, 70 millions d'abonnés devraient en avoir regardé au moins 2 minutes sur ses 4 premières semaines de disponibilité. C'est comme ça que Netflix mesure désormais son audience. Voilà de quoi éclipser les énormes succès de Bridgerton ou encore Le jeu de la dame.
Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour, le 16e et ultime numéro de la revue éphémère America. Elle racontait l'évolution. La société américaine avait prévu de s'arrêter à la fin du mandat de Donald Trump. Nous y sommes. On en parle avec son rédacteur en chef, Julien Bisson. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Bondel.
C'était dit, c'était écrit, elle s'arrêterait à la fin du mandat de Donald Trump, le jour de la passation de pouvoir. C'est donc aujourd'hui que la revue America sort son ultime numéro, le 16e, trimestriel, 4 numéros par an pendant 4 ans, 4 x 4, 16, un par trimestre pour témoigner à travers le regard de journalistes et d'écrivains de l'évolution de la société américaine. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans le studio d'Europe 1. Vous êtes rédac chef d'America depuis le premier numéro. Quelques notes de musique pour commencer. Et Hello Goodbye des Beatles. Hello Goodbye, c'est le titre qui figure sur la couve du dernier numéro d'America. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce titre ?
Eh bien, c'est hello, c'est bonjour à une nouvelle Amérique, l'Amérique de Joe Biden qui prend ses fonctions cet après-midi. Et puis goodbye à Donald Trump qui va quitter Washington pour la Floride. Et goodbye aussi à tous les lecteurs qui ont suivi l'aventure America pendant 4 ans.
Alors il y a un beau dessin de Mathieu Persan, comme pour chaque numéro, inspiré par le diapo américain. On voit une large avenue, au sol il y a des rayures rouges et blanches, le ciel est bleu. Les étoiles, elles sont posées une par une en guise d'ampoule au sommet de lampadaire qui borde l'avenue. Elles sont toutes cassées sauf une, elles s'allument parce qu'elle vient d'être changée par un ouvrier qu'on voit de dos sur une échelle. Ça veut dire quoi ce dessin ?
Eh ben c'est l'idée que peut-être que l'Amérique est en ruine, mais qu'elle va peut-être être réparée dans les prochaines années. C'est un dessin qu'on avait imaginé donc en décembre. On a bouclé ce numéro bien avant les événements du Capitole. Mais à la base, il devait déjà y avoir un gros Capitole au fond.
Ouais.
Là, il est beaucoup plus petit. Mais quand on a vu les événements du Capitole du 6 janvier, on s'est dit que vraiment les artistes avaient un don de prescience et qu'il avait imaginé, Mathieu Persan, cette couverture avec ce Washington dévasté et cette idée qu'il fallait, avec cette casquette Make America Again, cette casquette rouge emblématique des supporters de Trump au sol, et qu'il y avait quelque chose qu'il allait falloir réparer. Et quand on était sidérés devant les événements du 6 janvier, en se disant qu'il y avait quelque chose de prophétique dans cette couverture.
Alors la raison d'être d'America, c'était de raconter l'histoire du mandat de Trump, la transformation des États-Unis pendant les 4 dernières années. On va y revenir, on va s'intéresser à ce qui s'est passé. Mais avant ça, une question: où en est l'Amérique aujourd'hui ? C'est le thème du dossier du dernier numéro. Tiens, je vous la pose. Où en est l'Amérique aujourd'hui ? Vous avez 50 secondes.
L'Amérique est dans un état de sidération et de division comme elle n'en a jamais eu depuis peut-être la guerre de sécession. C'est pour ça qu'on a interrogé Colm McCann, notamment dans le dernier grand entretien, parce que Colm McCann vient d'un pays, l'Irlande, qui a connu la guerre civile et a connu un pays qui était divisé en deux parties très hostiles. Et on lui pose la question d'ailleurs de lui demander est-ce qu'une possibilité d'une guerre civile est possible aux États-Unis ? La question aujourd'hui, c'est va être la question de la réconciliation. Est-ce qu'une réconciliation est possible dans un pays qui ne se reconnaît plus, qui ne se parle plus et qui ne partage même plus les mêmes univers culturels ?
Et vous bouclez la boucle puisque Colm McCann était là dans le premier numéro d'America il y a 4 ans. Alors pour se rendre compte de la transformation politique des États-Unis, je voudrais qu'on écoute deux extraits du discours d'investiture de Donald Trump. C'était le 20 janvier 2017. Deux extraits qui résonnent de manière très particulière aujourd'hui. Voici le premier.
Tous les 4 ans, nous nous rassemblons sur ces marches pour effectuer une passation méthodique et pacifique des pouvoirs. Et nous sommes reconnaissants au président Obama et à la première dame, Michelle Obama, de leur bienveillance tout au long de cette transition. Ils ont été magnifiques. Merci.
Je tente un néologisme, c'est anti-prémonitoire. Oui. Que s'est-il passé pour que Donald Trump soit absent aujourd'hui, alors qu'il parlait de passation méthodique et pacifique du pouvoir il y a 4 ans ?
Oui, méthodique et pacifique. Pacifique, la passation ne l'a évidemment pas été, on l'a vu avec les événements du Capitole.
Ouais.
Méthodique non plus, puisque Donald Trump ne va même pas rencontrer Joe Biden. Il va quitter la Maison-Blanche avant que Joe Biden n'arrive. D'ailleurs, Joe Biden est à Washington, ils dorment dans des résidences qui ne sont pas très loin, mais ils ne vont même pas se rencontrer. Ça montre bien le dédain que Donald Trump peut avoir, mais aussi c'est presque une volonté politique, c'est de montrer que ce n'est pas lui qui confie les rênes du pouvoir à Joe Biden, mais qu'il est sorti de la Maison Blanche de façon illégale et que donc il est légitime à pouvoir continuer ensuite à occuper la scène politique.
Ça c'est la thèse de Trump. Deuxième extrait du discours d'investiture de Donald Trump, donc il y a 4 ans, c'était celui qui était le plus marquant, celui qui avait été le plus commenté à l'époque.
Nous qui sommes réunis ici aujourd'hui, nous prenons un nouveau décret qui sera entendu dans toutes les villes, toutes les capitales étrangères et tous les centres de pouvoir. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle vision gouvernera notre nation. À partir d'aujourd'hui, ce sera strictement l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. Ensemble, nous allons déterminer l'avenir de notre pays et celui du monde pour de nombreuses années à venir. Nous aurons des défis à relever, nous aurons des difficultés à surmonter, mais nous ferons ce qu'il faut pour réussir.
Julien Bisson, qu'est-ce qu'il reste de ce slogan « America First » ?
Il reste l'idée que les discours ne sont pas performatifs, que évidemment c'est un discours qui a été maintes fois énoncé pendant ces quatre années, mais quel est le bilan de Trump au bout de ces quatre années?
Concrètement, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas des lois qui ont instauré America First.
Si, il y a eu des lois, notamment sur le plan du commerce, par exemple, où il y a eu des programmes commerciaux qui ont essayé de mettre l'Amérique au premier plan. Mais le résultat en lui-même, c'est que même ces lois commerciales ont provoqué un appauvrissement des producteurs, des agriculteurs américains. Et puis, dans le point de vue géopolitique, l'Amérique ne ressort pas grandie de ces quatre années. L'Amérique ressort plutôt affaiblie évidemment par la crise du Covid, mais de façon plus générale, par un affaiblissement de son envergure militaire, diplomatique, un effacement de son rôle dans le monde. Donc, America First, non, ce n'est pas, en effet, c'est pas performatif. Et l'Amérique ne ressort pas en premier plan des puissances mondiales après 4 ans de Trump.
Que va-t-il se passer maintenant pour l'Amérique et pour le journal America qui s'arrête? Que va devenir la rédaction? On vous donne la réponse dans quelques instants avec le rédac-chef de la revue America, Julien Bisson.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Julien Bisson, rédacteur en chef d'America, America qui fête, qui célèbre son ultime numéro, mais c'est un choix, Xavier, qui serait là tant que Trump serait à la Maison Blanche. L'un n'y est plus, l'autre va se retirer des kiosques après la vente de ce dernier numéro, imprimé, vous me l'avez dit, pendant la pause le 23 décembre, et qui anticipe les émeutes qui sont passées au Capitole avec ces étoiles détruites. L'évolution des États-Unis, vous avez choisi de la suivre dans chacun des 50 États américains. On va sur la carte qui ouvre chaque numéro. Vous l'avez fait à travers le regard de journalistes, mais surtout d'écrivains. C'est la différence d'America. C'est comme ça que vous démarquez. Toni Morrison pour le premier numéro, Stephen King, James Ellroy, Paul Auster, rien que ça. Entre autres, qu'est-ce qui vous a marqué avec le recul dans leur récit, c'est au pluriel, dans leur regard, c'est au pluriel?
C'est leur volonté de proposer justement un contre-récit à l'histoire de l'Amérique. C'est l'idée que, à chaque fois, dans chaque numéro, on est parti des grands mythes américains, l'argent, les armes, le sexe, les grands espaces, et ainsi de suite. Et puis, grâce aux écrivains américains, on a réussi à écorcher ce vernis, à essayer d'aller gratter pour aller voir ce qui véritablement sommeille dans les tréfonds de l'Amérique. Et poser des questions à Toni Morrison, à Paul Auster, à James Ellroy, à Stephen King, à tous ces grands écrivains qui, depuis très longtemps, dans leur œuvre, se penchent sur ce qu'est l'Amérique, c'est justement aller voir la contre-histoire, aller voir au-delà des discours officiels pour aller comprendre les lignes de fracture qui peuvent sillonner la civilisation, la culture américaine, aller comprendre le poids de l'esclavage, le poids du racisme, le poids de la violence et comment tout cela a pu constituer une société américaine qui tient par des petites ficelles, mais qui véritablement n'arrive pas c'est des ficelles qui peuvent tout le temps être en train de craquer. Voilà. C'est grâce aux écrivains, c'est mettre en récit la rumeur du monde. C'est arriver à entendre tous ces petites choses et réussir à créer un récit qui permette de mieux comprendre comment cette culture américaine se structure.
Juste un mot, et de grands écrivains, vous l'avez dit, il y a aussi des dessins dans l'Amérique de la bande dessinée. Dans le dernier numéro, c'est un journal dessiné du confinement signé Emile Ferry, c'est l'une des plus grandes dessinatrices américaines. C'est magnifique, mais j'avais jamais vu ça. Le texte est en anglais, mais dans les marges, c'est vous qui traduisez les bulles. C'était par manque de temps, par esthétisme ou par manque d'argent?
C'était surtout par manque de temps, parce que on a reçu les planches d'Emile Ferris très tard.
Ouais.
Et je vous avoue que je voulais aussi, c'était important dans America, on a toujours des textes en VO. On a toujours des textes en anglais parce qu'on voulait aussi faire en sorte que les lecteurs puissent entendre la voix des auteurs. Et là, on a reçu ces textes calligraphiés par Emile Ferris et on a fait le choix de ne pas tout traduire en mettant des lettres informatiques et en gardant ces textes calligraphiés par Emile Ferris. Ça permettait de garder aussi cette profondeur, cette énergie à ces planches.
Je souris parce qu'il y a un texte de Rachel Kouchner, Shame Too, c'est la suite. Et alors, il y a le texte en français, page de gauche, et le texte original en anglais, page de droite. J'aimerais pas être le traducteur où tout le monde voit si j'ai pas fait une erreur, je détesterais. Pour parler de ces quatre dernières années et de ce que sont devenus les États-Unis, on vous a demandé de choisir une chanson marquante des années de Trump et voici celle que vous avez retenue. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. What I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up.
police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah.
Qui est cette voix dans ce rap et que raconte cette voix?
Alors cette voix, c'est le rappeur Childish Gambino, c'est le nom du rappeur de l'acteur Donald Glover. Et c'est un titre qu'il a sorti en mai 2018, This is America, et qui a beaucoup frappé les esprits à l'époque, non seulement par les paroles, mais par le clip également, qui était un clip très, très violent, dans lequel on le voit en train de danser avec des images autour de lui très violentes, et qui parle de la condition des Noirs aux États-Unis et de la condition prise dans les engrenages de la violence, de l'argent, des armes. Et c'est je trouve un titre très fort parce que c'était justement, il est sorti au moment où Donald Trump avait un discours sur l'Amérique blanche. Et la chanson de Childish Gambino rappelait qu'il y a une autre Amérique. Il y a une autre Amérique qui essaye de survivre dans un pays qui ne lui fait pas forcément une très belle place. Et c'est une chanson qui était importante parce que, d'une certaine façon, elle préfigure tout ce qui s'est passé l'année dernière avec les mouvements Black Lives Matter. Et véritablement, ça a été un petit caillou dans ce grand parcours qui mène aux revendications des Noirs aujourd'hui. Et je crois vraiment que ça a été, elle est sortie à peu près au mi-temps de la présidence Trump. Et ça a été une chanson importante pour cela.
Dans America, Julien Bisson, vous avez chroniqué les séries américaines, pas forcément celles produites au cours des dernières années. Par exemple, dans le dernier numéro, vous parlez de Seinfeld, qui est une série des années 90, donc c'est pas du tout trumpienne ou trumpiste. Pourquoi revenir 25 ou 30 ans en arrière, alors que la promesse de la revue, c'était de parler du présent?
Parce que les séries, comme toutes les grandes œuvres culturelles, nous parlent toujours du présent. C'est parce que toutes ces grandes séries, moi j'ai chroniqué en effet Urgence, Twin Peaks et quelques autres comme cela, elles nous parlent toujours de ce qu'est la société américaine. Et parler de Seinfeld, c'est revenir sur un portrait de la société américaine, un portrait des bassesses, un portrait du cynisme, un portrait de ce que c'est que la vie citadine également. Et puis avec des personnages dont un personnage qui s'appelle George Costanza, qui ressemble beaucoup à Donald Trump à certains égards. Et d'ailleurs, quand Donald Trump a dit qu'il ne quitterait pas la Maison Blanche, beaucoup de médias américains ont dit mais il nous fait une Costanza, parce qu'il y a un épisode de Seinfeld où Costanza est viré de son bureau et le lundi matin revient comme si de rien n'était, en essayant de faire en sorte que personne ne s'en rende compte. Voilà, donc c'était aussi ce petit clin d'œil qui m'amusait.
Je ne souris pas de ce que vous dites, je souris de mes rémémorations de visionnage de Seinfeld. Dans le premier numéro d'America, le pacte était clair. America s'éteindrait quand Donald Trump terminerait son mandat. Son mandat ou ses mandats? Vous auriez fait quoi si Trump avait été réélu?
C'est une excellente question et je pense qu'on est content de ne pas avoir eu à se la poser.
Mais vous l'avez posé quand même, quand il était en tête dans les sondages où il y a encore un an.
On se l'est posé, on s'est dit est-ce qu'on a envie de repartir pour 4 ans de plus? Je pense qu'on aurait eu un mandat pour le faire, en tout cas, s'il avait été réélu. Mais on espérait, pour beaucoup de raisons, on espérait qu'il soit battu en novembre dernier, et donc ça a été aussi une satisfaction de ce point de vue. Ça permettait pour nous de conclure cette aventure au 16e numéro, comme on l'avait souhaité. Comme vous l'avez rappelé, je chroniquais les séries dans ce numéro, dans cette aventure. Et j'aime les séries qui ne font pas la saison de trop. J'aime les séries qui ont un début, un milieu, une fin, et qui ont fini de raconter une histoire. Et on a eu le sentiment qu'avec ce 16e numéro, on finissait de raconter cette histoire et qu'on ne voulait pas continuer pour continuer, simplement pour parce qu'il y a du succès, et finalement se décevoir et se répéter.
16 numéros en 4 ans, mais 500 000 exemplaires vendus, donc on fait la division, 33 000 exemplaires par numéro. Aucun numéro n'est descendu sous les 30 000 exemplaires. C'est un succès commercial. Est-ce que c'est aussi un succès financier?
Oui, c'est forcément un succès financier. Quoique, vous savez, America, pour réussir à produire un magazine comme America, ça coûte cher.
Bien sûr.
On a envoyé beaucoup d'écrivains français aux États-Unis, on paye beaucoup d'illustrateurs, vous avez parlé d'Emile Ferris, on a des gens comme Chris Ware dans ce nouveau numéro, on commande des textes à des écrivains américains. Et puis on a essayé aussi, dès le début, d'avoir une qualité de papier, une qualité d'ancrage qui soit aussi celle de presque d'un très beau livre, de façon à ce que les lecteurs gardent ces America dans leur bibliothèque et ne le mettent pas dans leur revue, voire dans leur poubelle à papier.
Que vont devenir celles et ceux qui travaillent pour America?
Eh bien, ils vont continuer d'autres aventures.
Parce que vous êtes au sein d'un groupe.
Comment?
Vous êtes au sein d'un groupe.
Oui, on est au sein d'un groupe. Écoutez, on a plein d'autres choses à faire. François Bunel continue évidemment à la Grande Librairie. Moi, je suis rédacteur en chef du 1. Donc, on a aussi d'autres choses. Et puis, on va aussi continuer à réfléchir à l'avenir. On n'a pas voulu continuer America pour éviter de se répéter, mais on a aussi envie de trouver de nouvelles idées, de nouvelles énergies pour lancer d'autres projets à l'avenir.
Donc, il y a peut-être un projet qui est dans le four et qui va sortir bientôt.
Il n'y a pas de projet dans un tiroir secret.
Ouais.
mais évidemment qu'on a envie de pouvoir créer, on a envie de pouvoir inventer des nouvelles choses.
Voilà, et ce groupe dirigé et créé par Eric Fotorino. Merci beaucoup Julien Bisson.
Merci beaucoup Philippe.
Oh là là. L'hymne pour votre sortie. En majesté, rédac chef d'America, dont l'ultime numéro arrive en kiosque aujourd'hui. On peut également suivre votre travail chaque semaine dans le 1 dont vous êtes le rédacteur en chef. Le sujet cette semaine du 1.
Le sujet cette semaine, c'est les ados qu'on prostitue.
Aucun rapport avec ce qui précédait. Dans un instant, nous serons avec l'agent immobilier le plus connu de France. Aux États-Unis, c'est Donald Trump. Ici, c'est Stéphane Plaza. Il fête la 100e de son émission culte, Recherche, appartement ou maison sur M6. Et il ne se présente à aucune élection. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Stéphane Plaza.
Bonjour.
À la fois agent immobilier, comédien, animateur télé, parfois les trois en même temps à la même seconde. Vous êtes la seule star française à avoir son nom partout en France à l'année. 520 agences immobilières, c'est ça?
C'est ça, on est pas mal. Hein.
Votre actualité, la 100e de Recherche appartement ou maison, c'est sur M6, c'est ce soir à 21h. On peut déjà vous voir dans plusieurs, on vous a vu déjà dans plusieurs émissions du groupe M6. Chasseurs d'appart, maison à vendre, mieux chez soi, il y en a tellement qu'on peut les confondre. C'est quoi le principe de Recherche appartement ou maison?
Alors, recherche appartement ou maison, une famille ou une personne seule ou un couple, on va dire, recherche un appartement avec un budget et on essaye de trouver la perle rare en France. Moi, c'est plutôt Paris et j'ai d'autres experts qui sont un peu partout, Lyon, Toulouse, un peu partout, Aurillac, Lille, enfin... En France.
Voilà, on parle jamais assez des experts d'Aurillac. Alors j'adore ce que vous dites en préambule pour présenter votre émission. Vous dites, je vais donner quelques chiffres. D'abord, ça fait pro. Et ensuite, parce que c'est la 100e. Pourquoi ça fait pro de donner des chiffres?
Parce qu'on se dit toujours, est-ce qu'on est dans la réalité ou pas? Là, il faut savoir que Recherche Appartement, c'est ce qu'on appelle une docu-réalité. On est dans la vraie vie, avec des vrais acheteurs, quelle que soit la profession des personnes qui participent, qu'ils soient comédiens, chanteurs, ou fonctionnaires, infirmiers, éboueurs, peu importe. C'est la vraie vie. Donc on donne des chiffres parce qu'on se dit toujours, est-ce qu'ils achètent vraiment à la fin ou pas? Oui, il y a des experts qui marchent mieux que d'autres, ouais. Comme Stéphane Plaza, on ne va pas se mentir, hein, ouais. Et d'autres qui sont un peu en dessous, mais on est dans la vraie vie.
Vous ne donnez pas les noms de ceux qui sont en dessous?
Non, je ne donne pas les noms, ils sont tous en dessous.
Bah oui, c'est vous la vedette. L'émission en chiffres, 1200 appartements visités, combien de ventes, quel est le pourcentage de réussite de vente?
Pour le pourcentage pour Recherche Appartement, c'est à peu près 73%.
Ouais.
Donc on est plutôt pas mal, parce qu'après, vous savez, pour acheter, il faut faire le pas. Même si on a trouvé la perle rare, il y a des personnes qui se disent « Ouh là là, ouh là là, ouh là là, est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas ?»
Pour la 100e de Recherche Appartement ou Maison qui passe ce soir, que j'ai eu la chance de voir, vous avez exceptionnellement fait appel à une guest, la comédienne Fabienne Cara. Elle aussi, elle cherchait un appartement avec sa sœur Carole. La demande est très atypique, au point que vous vous posez la question « Mais pourquoi je suis là ?»
Alors pourquoi je suis là alors?
Petit changement de vie personnel, donc j'ai été recueillie entre guillemets par ma sœur
et
son mari évidemment.
D'accord.
Voilà. Et depuis que Fabienne est dans notre vie, c'est un rayon de soleil tous les jours, donc nous souhaitons prolonger l'aventure.
Donc l'idée c'est de quitter ici.
Oui. Et d'acheter plus grand.
D'acheter plus grand, mais ensemble.
Avec chacun sa partie.
C'est-à-dire une vie de famille.
Oui.
Et une vie d'artiste.
Oui.
C'est quand même... c'est rare.
Oui.
Et alors vous avez trouvé... Donc elles vont habiter en famille avec les enfants, les maris de l'une et puis le nouveau petit ami, puisqu'on apprend ça qu'elle est séparée.
Elle est séparée pour l'instant.
Alors, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer.
On ne sait pas encore ce qui va se passer. Moi, je ne peux pas tout raconter non plus. Mais en tout cas, il y a une vie de famille. Une femme, donc Carole, mariée avec un enfant. De l'autre côté, Fabienne, qui a changé de vie, qui se sépare et donc qui a décidé d'habiter avec sa sœur, mais avec deux entrées complètement différentes. Une vie intime aussi différente, heureusement d'ailleurs. Et après, une vie de famille aussi.
Voilà. Et vous avez trouvé quoi? Est-ce que vous avez des enfants?
Moi,
ouais.
Des non déclarés peut-être, mais sinon des déclarés non.
Je vous pose la question parce que quand vous trouvez ce sublime appartement aux sœurs Cara, Fabienne et Carole, vous avez une drôle de façon de parler de vous-même.
J'ai envie de vous dire, il a pas pensé à tout, papa.
Vous appelez vous-même papa. Je vais pas faire de la psychanalyse à la petite semaine, mais quand même, c'est assez étrange.
Ben non, mais papa, ça veut dire que parce que j'appelle aussi Karine Le Marchand maman, parce qu'à partir d'un certain âge, on est en âge d'être papa.
Ah, moi, je pensais que c'était vos clients, c'était les enfants que vous n'aviez pas.
Ah, pas du tout. C'est par rapport à mon âge. J'ai 50 ans, je suis vieux. Hein. Il y a des choses que j'arrive plus à faire.
On reste au chapitre des enfants. Il y a une famille qui est à la recherche d'une maison dans le secteur de Lyon. Ils ont deux enfants, dont Simon, 12 ans, qui veut trouver la chambre parfaite. Le petit bonhomme est très investi et il a déjà votre vocabulaire.
J'aimerais bien avoir un angle droit parce qu'à la base, j'avais prévu de mettre mon lit au fond et mettre les étagères sur les côtés. Sauf qu'il y a un gros problème. C'est pas un angle droit comme vous pouvez le constater. Du coup, j'ai dû mettre mon étagère ici et mon lit là, sauf qu'il est en plein milieu de la chambre. Et il y a aussi le vis-à-vis et on voit de partout.
Il est bon, il est touchant.
Il est très bon. Alors, l'émission marche très bien. 2,4 millions de téléspectateurs en moyenne. Mais c'est pas... Quand vous achetez un magazine de robe de mariée, vous l'achetez à l'approche d'un mariage. Ensuite, vous arrêtez. Qui sont les gens qui vous regardent? Il n'y a pas 2,4 millions de personnes qui veulent changer de maison ou si, ou je me trompe?
Oh bah j'espère qu'ils veulent changer de maison, tous veulent changer de maison. En tout cas, on rêve de changer. Ouais. On rêve d'avoir plus grand, on rêve de voir un peu de la déco. On apprend aussi, il y a quand même des conseils, on évite quelques pièges et puis on rigole
aussi.
J'ai
mal posé ma question.
Oui.
Quand on regarde une émission de déco, tout le monde veut avoir une belle maison chez soi. Mais tout le monde n'a pas l'intention de déménager. Qu'est-ce qui fait que votre émission plaît à des gens qui, combien même, sont heureux chez eux?
Bah, premièrement, je pense qu'on voit des apparts plus ou moins jolis, hein, ça dépend, mais en tout cas on comprend ce que c'est qu'un appart avec un budget. Deuxièmement, on évite les pièges ou pas. Et puis après, on regarde, on a aussi de la déco. Est-ce que la déco est bien? On regarde un petit peu chez les gens aussi. Et ça, on aime bien voir un petit peu chez les gens. Et puis après, il se trouve que ma maladresse et mon franc-parler fait peut-être aussi effet. Donc je suis dans la vie comme à la télé.
Ah, vous êtes maladroit?
Très maladroit, extrêmement maladroit.
On en parle avec Stéphane Plaza, c'est lui qui le dit. Culture Média continue, à tout de suite.
Il n'a pas pensé à tout, papa.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Stéphane Plaza qui présente ce soir sur M6 à 21h en prime time la 100e de recherche appartement ou maison. C'est la 100e Stéphane Plaza, mais également vos 15 ans sur M6. Vous aviez été repéré à un salon d'immobilier. Dans la foulée, vous avez fait votre premier casting. Vous étiez dans quel état d'esprit?
J'étais pas dans l'état de partir comme animateur. Autant je faisais du théâtre et je rêvais de faire du théâtre, autant je suis dans un salon, j'ai pris une mine la veille, c'est-à-dire que j'ai un peu bu, j'ai mal à la tête, casting sauvage. On dit tiens, celui-ci, il est en basket, il a une drôle de tête où il parle pas comme les autres, on va le prendre en plus, hop, je pars en plus le casting, et c'est le talent de Jean-Luc Delarue qui a dit celui-ci, il a de l'humain, on va le mettre à l'antenne et on verra ce qui se passe.
Jean-Luc Delarue qui était le producteur de l'émission, et dans la 100e, vous rediffusez votre casting,
oui.
Et on peut constater que vous y êtes déjà taquin avec les potentiels acheteurs, ou plutôt les potentielles acheteuses.
Cet étage,
C'est haut. Mais ça fait les fessiers. Pas besoin de carte de gymnase club.
C'est vrai, hein? C'est vrai.
Donc on peut refaire la couleur. Hein.
Oui, après c'est de la déco.
C'est de la déco.
En revanche, c'est une cuisine américaine.
C'est une cuisine ouverte, c'est ce qu'on appelle américaine.
Ouais. Mais pour les odeurs et tout ça, moi j'étais pas trop pour, hein, chouchou.
Ouais, mais... Alors là, si chouchou cuisine, il peut fermer aussi, chouchou, hein. Et après, c'est pas un souci. Hein. On peut mettre un petit mur, on ferme. Après, c'est de la déco, hein. Mais tout est possible pour chouchou, hein. Qui c'est qui cuisine, c'est chouchou?
Non, pas du
chouchou.
Tout. C'est-à-dire que chouchou, c'est plus dans l'intimité, voyez.
Ah, excusez-moi.
Après, ça me gêne un peu.
Excusez-moi.
Mais moi, je vous dis juste mon problème.
Oui, mais dites-moi.
Voilà.
C'est quoi votre problème?
Je vais m'ouvrir à vous.
Peut-être pas
c'est
trop,
que
quand
vraiment...
même.
Mariana, hein.
Il y a 3-4 ans, je vais m'ouvrir à vous, chasseur d'appart avait été sous la surveillance du CSA à cause de caractères sexistes, des blagues un peu lestes. Est-ce que vous avez mis de l'eau dans votre vin ou est-ce que vous avez coupé au montage?
Alors, il y a toujours des coupes au montage, mais dans chasseur d'appartement, c'était pas moi qui était vraiment en cause, mais c'était plutôt la voix off. Donc,
ouais.
Et il faut savoir que l'émission de chasseur d'appartement est faite 95% par des femmes. Donc après, oui, il y a eu le CSA, je crois que c'est de la Belgique. Bah, bien sûr, on fait attention, le monde change. Le monde change, on est moins potache et on fait autre chose. Et puis, on n'est pas en live non plus, et même en live, je fais très attention et je respecte les codes.
Toute la presse a raconté que vous êtes installé chez Karine Le Marchand, votre copine d'M6, pour y habiter. Vous avez fait cette confidence, je lui change beaucoup sa vie parce qu'on ne mange pas la même chose, on n'a pas le même fonctionnement. Pareil que je parle fort, vous êtes toujours chez elle?
Alors, c'est-à-dire que j'avais trouvé, donc je suis parti au début chez elle parce qu'on n'avait pas le droit de louer, c'était la loi. Donc moi, j'ai fait mes travaux au moment où je n'ai pas le droit de louer. Donc je pars chez elle, elle mange que du quinoa, donc c'est pas facile à manger tous les jours. Hein.
Du quinoa, vous voulez dire?
Hein ?
Du quinoa.
Oui, c'est ça.
Parce que du quinoa, je crois que c'est une île au Japon.
Oui, alors, vous voyez, je suis dyslexique. Mais vous suivez bien. Donc, en tout cas, voilà. Et il paraît que je parle fort et qu'on n'a pas les mêmes horaires.
Mais vous n'êtes plus chez elle ? Écoutez, j'ai lu quelque chose, je n'y crois pas. Pareil, vous êtes trouvé un petit appartement, mais qu'on vous a coupé l'électricité. Comment c'est possible ?
Alors, je vais vous expliquer le truc.
Donc, attention, il faut que ce soit court. Hein.
Oui, ça va être très court. Je pars de chez elle, je prends quelque chose juste en face des travaux. À 3 h du matin, la propriétaire qui avait appelé 2 jours avant dit : eh ben, c'est plus moi la propriétaire, c'est un locataire qui va vous appeler. Paf ! Ils ont coupé. C'est resté 3 jours dans l'électricité à l'eau froide, je me suis lavé.
Dingue, au moins vous êtes lavé.
Oui.
Plus sérieusement, la crise.
C'était sérieux ça. Hein,
la crise du Covid, dans quelle mesure elle vous a affecté ? Vous avez continué à faire des visites, à faire des tournages, et puis d'un coup vous avez dit top, je peux plus.
En fait, c'est une crise sanitaire. Ça n'a pas été une crise immobilière si on est très très sérieuse. Donc il y a eu un premier confinement où on n'avait pas le droit de faire des visites. Un deuxième confinement où on avait le droit d'aller estimer les appartements mais pas les vendre. Donc moi j'ai décidé d'arrêter la télé puisque je suis dans la vraie vie. Si je n'ai pas le droit de vendre dans la vraie vie, je ne vais pas faire un tournage pour vendre par rapport à toute la profession. Je suis en respect de cette profession que j'adore.
Même en faisant des tests, vous avez fait combien de tests ?
Alors, j'ai fait beaucoup de tests. Je dois être à plus de 50 tests. Je crois que la prise de sang, PCR, test antigénique, enfin j'ai tout. Voilà.
Vous aviez dans une interview que ça allait changer quelque chose si le couvre-feu était imposé dans tout le pays à 18h. C'est un détail ou ça change quelque chose pour votre profession et comment va votre profession ?
Alors, la profession, l'immobilier, c'est essentiel. Donc, il y a la santé, l'immobilier. Donc, on est plutôt bien placé. On a la chance de pouvoir encore travailler, même si c'est à 18h. Certains n'ont pas la chance de travailler. Alors, il faut partir plus tôt, il faut se lever plus tôt, essayer de faire les visites. Mais surtout, il faut respecter ce couvre-feu. C'est-à-dire que, il faut qu'on arrête à 17h.
La semaine dernière, vous avez rencontré Emmanuelle Wargon, qui est la ministre chargée du logement. Elle vous a dit quoi ?
En fait, on avait un rendez-vous bien prévu de longue date. Donc, c'est la deuxième fois que je la rencontre. En fait, on essaie de trouver des solutions pour la location, pour avoir un accès plus facile à la location. C'est-à-dire remettre la confiance entre un propriétaire qui n'est pas forcément riche, parce qu'il y a des propriétaires qui sont un peu âgés, qui ont besoin de ça pour la retraite, et un locataire qui n'a pas forcément le droit à une location. On essaie de trouver le rassemblement. Et donc, j'ai amené des idées, une dizaine d'idées sur lesquelles on travaille pour essayer de faciliter la location.
Ouais, et c'est cet effet pervers qui fait qu'il y a des propriétaires qui ont peur de louer leur logement et du coup il y a une raréfaction des logements et donc le prix augmente.
C'est exactement ça, à cause des assurances de loyer impayés ou de tout ce qu'on demande. Donc on essaye de trouver une solution plus adéquate à la France.
Dans toute la France, je l'ai dit, vous avez près de 520 agences immobilières, Stéphane Plaza, à votre nom. Comment vous avez vécu les images de la manif contre la loi Sécurité Globale ? C'était le 5 décembre, où une de vos agences immobilières, celle de l'avenue Gambetta, a été détruite par des casseurs.
Alors, quand on regarde l'image et qu'on voit son nom, Stéphane Plaza, et qu'on voit fracasser l'agence, évidemment, ça fait très mal. Il y a tous les commerces de la rue qui ont été fracassés. On s'est arrêté sur l'image. J'ose penser que ce sont des locataires ou des propriétaires qui avaient oublié leurs clés chez moi et donc qui ont frappé la vitrine pour pouvoir aller chercher, rentrer chez eux.
Au-delà de la blague, est-ce que vous avez été remboursé ? Soit par l'assurance, soit par l'État.
C'est en cours, on va dire. C'est en cours. Mais en tout cas, au-delà de la blague, c'est des franchisés, c'est pas Stéphane Plaza. Et donc, c'est des personnes qui ont mis tout leur argent pour avoir une entreprise. Et c'était très compliqué pour eux. Après, ils ont la santé et tant mieux, on repart de plus belle.
Nicolas Taverneau, vous avez signé un contrat en juillet 2017 pour 3 ans. Il a pris fin en juillet 2020. Vous avez rempilé pour 3 ans ?
J'ai rempilé pour 3 ans.
Merci beaucoup Stéphane Plaza. Je vais citer Stéphane Plaza en grande vadrouille. Là, c'est carrément du public rédactionnel. C'est même le logo de votre agence sur la couverture de cette BD. Rien ne se perd. Merci beaucoup Stéphane Plaza. La 100e de Recherche Appartement ou Maison, c'est sur M6 ce soir. D'avoir été avec nous. Salut à Karine Lemarchand. Culture Média continue. Après le titre des titres de 10h, nous recevrons Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un documentaire sur la vie jalonnée de drames du président Joe Biden. Et Bertrand Chameroy pour son écran de veille spécial Télé-shopping, j'attends ça. Notre invitée, c'est la cantatrice mezzo-soprano Malika Bellaribi. C'est elle qu'on appelle la diva des banlieues. Elle a inspiré le nouveau téléfilm de France 2, Les Sandales Blanches. Et puis dans les indispensables, de la musique avec un grand opéra classique et des chanteuses de jazz exceptionnelles. Et puis une série pleine d'humour sur la vie des gamers. Rien que ça, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Van...